Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et à la une, ce très gros incendie en Gironde.
Un feu qui a pris dans la forêt, tout près de la côte, effectivement. 2000 hectares déjà ravagés et 12 000 personnes évacuées depuis hier soir. Certains ont été durant la nuit. RMC sur place en direct depuis la Gironde, mais aussi du Var, où les pompiers luttent toujours contre les flammes ce matin dans la moyenne montagne. On va voir tout ça. On va détailler aussi le nouveau bilan de la canicule du mois de juin. Santé publique France, donc, qui a compté près de 6 000 décès de plus que d'habitude, inédit depuis 2003. Et on a la date, ça y est, c'est mardi, donc Zinedine Zidane va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football.
C'est la forêt de pins en Gironde qui brûle toujours ce matin.
Oui, le feu a pris hier après-midi sur la commune de Somos, entre le bassin d'Arcachon et Lacanau, avant de se propager sur la commune du Porge, où se trouvent énormément de vacanciers à cette époque de l'année. Ce feu a déjà détruit 2000 hectares de forêt et donc 12 000 personnes ont été évacuées. 7 000 rien que cette nuit. Pierre Bourgès, vous êtes d'ailleurs en direct ce matin pour RMC, en direct de Lacanau. C'est une des communes qui est mobilisée pour accueillir tous ces évacués qui ont dû partir en vitesse, des campings notamment durant la nuit.
Oui, en fait, tout a commencé vers minuit. Les maires, comme ici à Lacanau, où je me trouve, ont reçu un coup de fil des autorités. Ils vont devoir accueillir une première salve de 3000 vacanciers sur leur commune. Dans le même temps, à Lège-Cap-Ferré, la gendarmerie fait du porte-à-porte pour ordonner l'évacuation de certaines habitations. Dans les campings, la sécurité s'en charge, mais tout n'est pas si facile. Je vais vous donner l'exemple des vacanciers du village de la Génisse. À une quinzaine de kilomètres d'ici, la seule route qui amène à ce village est fermée à cause du feu trop proche. Donc près de 350 véhicules ont pris la direction de la plage, ont roulé sur la piste cyclable, puis sur les chemins forestiers pour rejoindre Lacanau. Évacuation inédite, il faut le dire, pour ces touristes qui s'est quand même déroulé plutôt dans le calme, même si pour certains, comme Hélène, cerne sous les yeux, reste à savoir comment le feu va évoluer. Écoutez.
C'est vrai que c'est un peu flippant parce qu'on part, on laisse tout et c'est pour certains d'entre nous, c'est presque une vie, quoi. C'est une maison de famille, c'est un cabanon en bois, mais c'est une maison de famille.
Lège-Cap-Ferré, Biganos, Ourtin ou encore Lacanau ont ouvert leur salle des fêtes. Là où je me trouve, des vacanciers arrivent toujours à 7h ce matin et ils sont pour l'instant 120 à dormir ici, sans compter ceux qui ont été réorientés vers des campings de la commune.
Alors on entend ce récit à votre micro ce matin, Pierre Bourgès. Les pompiers de Gironde, ils parlent d'un feu très virulent.
Oui, Quentin, vous le disiez, 2000 hectares ont brûlé. Hier, à 21h, c'était 800. La taille de l'incendie a plus que doublé cette nuit. Pourquoi ? Eh bien, déjà, tout simplement parce que ici, autour de nous, il n'y a que des forêts de pins très inflammables, évidemment. Les pompiers ne sont pas non plus aidés par le vent qui, pendant une partie de la nuit, a été largement défavorable et a poussé le feu vers le Cap Ferré, d'où les évacuations préventives. Et pour éviter tout sur-incendie, la préfète a interdit dès aujourd'hui les travaux en forêt toute la journée, d'autant que l'origine du feu pourrait être liée à des travaux de débroussaillage, une origine humaine, donc, comme dans 90% des cas. Le procureur de Bordeaux a d'ailleurs indiqué durcir les sanctions contre les auteurs de départ de feu, même si c'est accidentel.
Pierre Bourgès, en direct de Gironde ce matin pour RMC, avec cette image incroyable, des colonnes de pompiers au milieu de la forêt de pins, avec le ciel orange, même dans la nuit, au-dessus de cette forêt qui brûle. Alors il y a ce feu en Gironde, et puis il y a toujours le très gros incendie dans la moyenne montagne du Var, qui a ravagé 2500 hectares de forêt tout autour des villages provençaux, pittoresques, Cotignac, Corinthe, Montfort-sur-Argent aussi, où se trouve notre envoyé spécial Célestin Bougère, qui nous raconte le formidable élan de solidarité des habitants et même des sinistrés à l'égard des pompiers.
La lumière de la cuisine de la salle des fêtes est la seule visible dans la nuit. À l'intérieur, une petite dizaine d'habitants du village s'activent encore autour d'une table recouverte de nourriture pour les pompiers. Stéphanie est en charge des opérations.
Ça a pris 2 jours pour qu'on finisse les sandwichs.
Vous en préparez combien ?
900, je pense, en tout.
Là, on a des colonnes qui arrivent encore et donc il faut les nourrir pour qu'ils soient en forme. C'est la moindre des choses.
Est-ce qu'on a rompé au jambon, là ?
Louis, 13 ans, est aussi venu en renfort.
On est plutôt content de faire ça pour les pompiers, pour ce qu'ils font pour nous aussi. Ça choque, parce que du jour au lendemain, on voit des pompiers arriver. Oui, ça choque.
Les gyrophares des camions de pompiers éclairent la pièce à chaque passage et l'odeur de la nourriture ne masque pas celle des fumées. Michael a du mal à effacer de sa tête les images de l'incendie.
Ça vient sur nous avec la vitesse d'un cheval au galop. C'est très très impressionnant. On pense pas, on est dans l'action, on fera le point bien après.
Dans la pièce voisine, Christine installe son matelas. Elle va passer la nuit ici. Sa maison est menacée.
Ça risque de continuer encore. Donc on attend.
Il y a un peu d'angoisse quand même de rester ici.
Oui, c'est sûr. On ne sent pas tellement de nouvelles, mais voilà, c'est pas évident.
Comme beaucoup ici, Christine craint cette nouvelle journée où un fort mistral pourrait attiser de nouveau les flammes.
Et alors dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assure que nous disposons de suffisamment de moyens aériens pour faire face à tous ces incendies, façon de répondre aux critiques et maintenant notamment de syndicats de pompiers. Il donne le chiffre de 12 500 départs de feu et plus de 40 000 hectares brûlés depuis le début de l'année. C'est déjà plus qu'en 2022, année marquée par de gros brasiers, on s'en souvient notamment dans le sud-ouest de la France.
Des incendies qui interviennent dans un contexte de sécheresse, après trois épisodes de canicule, et Santé publique France qui évoque cette surmortalité inédite pendant la canicule du mois de juin.
Avec ce chiffre de 6000 décès quasiment de plus que d'habitude sur la deuxième quinzaine du mois de juin quand on battait les records de chaleur absolument tous les jours. Bilan inédit depuis la canicule de 2003 et ce constat terrible que des Français sont morts de chaud chez eux, notamment des personnes âgées. C'est ce que vous nous dites ce matin, Louise Salé.
Oui, comme Louisette, 93 ans, morte déshydratée en région parisienne. Il faisait extrêmement chaud dans son appartement sans volet quand Odile, une voisine, y entre le dimanche 28 juin.
J'ai réussi à forcer la porte en fait et puis j'ai retrouvé Louisette étendue par terre, inconsciente. Et elle s'est éteinte le lundi à l'heure du déjeuner. C'est terrible.
Louisette est partie à l'hôpital comme près de la moitié des personnes décédées fin juin, tandis qu'un tiers sont mortes à domicile. Jean-François Bouscarin, vice-président de la Fédération nationale des infirmiers, regrette que les soignants n'aient pas accès aux coordonnées de ces personnes vulnérables qui sont recensées par les mairies.
La mairie ne peut pas me donner, moi, infirmier de territoire, le nom des personnes qui sont toutes seules pour des questions de coordonnées qu'on doit préserver. Donc la mairie, effectivement, téléphone pour demander aux papy ou mamie s'ils vont bien. Mais il faut aller les voir.
Rendre visite à ces patients âgés, isolés et à risque permettrait peut-être, selon lui, de réduire la surmortalité en période de canicule.
Alors, est-ce que ces morts auraient pu être évitées? Est-ce qu'on est prêt à affronter de futurs nouveaux épisodes de canicule? Deux invités ce matin pour tenter d'y répondre. D'abord, l'urgentiste Mathias Vargon qui sera avec nous dans moins d'une demi-heure. Et puis, la ministre de la Santé qui vient répondre ce matin sur RMC. Ce sera tout à l'heure à 8h40. Et vous venez en débattre, l'interpeller. Je vous attends au 32-16.
C'est le psychodrame de la semaine au gouvernement. Il faut s'accrocher pour suivre. Finalement, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, ne démissionne pas. C'est pourtant ce qu'elle avait annoncé. Après, souvenez-vous, l'adoption définitive de la loi d'urgence agricole, loi qui a réintroduit deux pesticides interdits en dénonçant un nouveau recul du gouvernement. Mais elle a changé d'avis, Romain Cluzel. Elle dit maintenant qu'Emmanuel Macron n'a pas accepté sa démission et donc qu'elle reste.
Monique Barbu l'assure, elle restera tant qu'elle a la garantie de pouvoir agir. La ministre de la Transition écologique liste les garanties qu'elle dit avoir obtenues pour rester au gouvernement. Un décret pour baisser le taux de cadmium dans les engrais, la protection des captages de l'eau potable ou encore un débat sur les polluants éternels PFAS. Sauf que la plupart de ces mesures étaient déjà dans les cartons. Alors ce vrai faux départ du gouvernement est vivement critiqué à la fois dans l'opposition et au sein du bloc central. Un vaudeville un peu ridicule, tacle un socialiste. Pendant qu'un député MoDem regrette les gesticulations de la ministre. Plusieurs parlementaires s'interrogent désormais sur la crédibilité de Monique Barbu, d'autant plus qu'aucun dossier majeur ne pourra avancer dans les prochains mois entre les débats sur le budget et la campagne présidentielle.
Des peines allant jusqu'à 5 ans de prison assorties de sursis prononcées hier à Sarreguemines en Moselle à l'encontre de 6 jeunes âgés d'une vingtaine d'années qui avaient tendu des guet-apens à au moins 7 personnes homosexuelles. C'était l'année dernière. Ils utilisaient une application de rencontre avant d'agresser leurs victimes, cagoulées en les forçant notamment à retirer de l'argent. Le parquet de Paris réagit à la mort de Daniel Ciad, le rabatteur présumé dont le nom apparaît des milliers de fois dans les dossiers de l'affaire Epstein. Le parquet fait savoir que l'enquête pour traite d'êtres humains en bande organisée, le visant, continue.
On va revenir sur ce dossier après le journal. Il est 7h09 sur RMC. On a enfin la date, c'est mardi que Zinedine Zidane deviendra le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de foot.
On va passer de DD à double Z. On en parlait énormément depuis hier sur RMC, Clément Brossard, car l'attente est énorme. Et ça y est, donc ça se précise.
Annonce sur les réseaux sociaux, communiqué ou conférence de presse, la forme de l'officialisation de Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur reste secrète, mais la date, elle, est connue. Zizou sera officiellement à la tête des Bleus mardi prochain, le 28 juillet 2026, soit 20 ans et 19 jours après son dernier match sous le maillot de l'équipe de France. Zinedine Zidane a déjà signé son contrat qui pourrait monter jusqu'à 450 000 euros primes comprises. Il devrait être entouré par un staff mixte de plus de 25 personnes entre ses fidèles adjoints du Real Madrid et d'anciens joueurs de l'épopée 1998. Une armée en soi qui aura pour but de faire remporter aux Bleus de Zidane le prochain Euro en 2028 et apporter, qui sait, une troisième étoile sur le maillot après avoir guidé la sélection vers son tout premier sacre mondial. C'était il y a 28 ans.
Bon, alors on les chambre en football, mais c'est l'année de la Belgique hein, sur le Tour de France en cyclisme. Sixième victoire pour les Belges hier avec Jasper Philipsen. Ça s'est passé à Voiron avant la première des trois étapes de montagne aujourd'hui dans les Alpes entre Voiron et Orcières Merlette avec 3900 mètres de dénivelé au programme aujourd'hui pour les coureurs.
Et ce sera à suivre sur RMC l'intégral tour tout l'après-midi, bien sûr sur RMC. C'était le journal de Quentin Vinet.